Aujourd'hui, la masterclass de Valérie Belin avec Aude Lavigne.
Eh bien, ouvrons à présent la masterclass de l'artiste Valérie Belin, enregistrée en public à la MEP, Maison Européenne de la Photographie, à Paris, pour France Culture, dans cette collection d'émissions. Des émissions de rencontres avec des artistes de tous les champs, de l'art, de tous les domaines artistiques, pour qu'ils nous éclairent sur les conditions d'élaboration de leur œuvre. Alors, nous sommes ici à la MEP, et la MEP, c'est pas un lieu anodin dans l'œuvre de Valérie Belin, parce que c'est ici que fut présentée votre première rétrospective en 2008, titrée Valérie Belin, photographe, 1996-2006, donc il y a une dizaine d'années, mais juste rétrospective, juste après une petite quinzaine d'années de travail. J'aimerais bien vous entendre, puisqu'on est dans ce lieu, Valérie Belin, sur cette exposition, une rétrospective très tôt. Quelle émotion, quel souvenir, quelles conditions, que choisir, toutes vos photos, racontez-nous dans les lieux, ce qu'il se passait dans ces lieux il y a 10 ans.
Mais pour moi, ce lieu est effectivement c'est un peu ma maison, entre guillemets aussi, parce que d'abord son directeur à l'époque, Jean-Luc Monterosso, avait dès le départ acquis mes œuvres pour la collection de la MEP, et donc soutenu le développement de mon œuvre en faisant ces acquisitions. Et puis, cette exposition, effectivement, pour moi, c'était vraiment une première reconnaissance importante. Quant à l'exposition elle-même, elle était centrée sur, on pourrait dire, sur un phénomène assez récurrent dans mon travail, qui était celui de l'équivalence entre les objets et les êtres. Donc on avait choisi des séries emblématiques sur cette thématique. Et à l'époque, le commissaire de l'exposition, qui était Pascal Ouel, a été formidable. Je dois dire que les accrochages, ça me panique toujours un peu. Le choix des conservateurs, pour moi, est vraiment un grand soutien pour élaborer un parcours intéressant pour celui qui regarde. Mais ça s'est fait de manière très fluide.
Alors, il faut dire d'emblée, et on comprend pourquoi la rétrospective a eu lieu si tôt dans votre travail, parce que il frappe par sa force, sa pertinence, son originalité. C'est une œuvre imposante. C'est une œuvre qui en impose. C'est une œuvre fascinante, elle éblouit, elle force l'admiration à la fois par sa rigueur et sa cohérence. C'est une œuvre qui semble poursuivre la même idée, de série en série, d'objet en objet, d'être en chose. Il semble qu'il y ait une question, comme une obsession peut-être, autour du corps, des apparences, des métamorphoses, entre la vie et la mort. Mourir, oui. Renaître, oui, mais comment, sous quelle forme, de cette mutation entre la mort et la vie, que reste-t-il encore de la vie? Et puis de quelle vie s'agit-il dans vos photos? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons des objets, vous l'avez dit, des objets, oui, mais des objets sans usage, des objets après usage, des objets prêts à partir à la casse. Nous regardons des êtres humains, oui, mais, mon Dieu, ces êtres humains ressemblent à des objets, à des voitures cabossées, des corps, je fais ici référence à une série de bodybuilders, on dirait des voitures luisantes, des voitures qui ont eu des accidents, comme les autres voitures que vous avez vous-même photographiées, précisément après accident, des femmes, oui, mais... est-ce réellement une femme ou un mannequin de cire? Bref, une imagerie qui est réelle ou synthétique, naturelle ou surnaturelle. C'est donc toute la fascination que provoquent vos images. Et ça depuis le début des années 90, où vous procédez de manière méthodique, méticuleuse, par série, relativement peu d'images chacune, je dirais une dizaine, mais c'est une variable, avec des formats qui, au tout début, sont plutôt modestes, et puis qui progressivement prennent un espace immense, des formats qui vont jusqu'à 1m60, parfois même 2 mètres de haut, pour une photographie plastique qui utilise, là encore, on voit votre souci du détail, de la précision presque chirurgienne, qui utilise toute la grammaire du médium photographique et qui aujourd'hui encore suit cette grammaire photographique en utilisant les outils récents et les nouvelles technologies et les logiciels actuels de retouche de la photo. Donc, il faut dire encore, pour cette brève introduction, que vous l'aurez compris, l'œuvre de Valérie Belin est primée, multi-primée et collectionnée. Collectionnée à peu près partout dans le monde et dans des collections publiques et privées très importantes. La MEP, d'ailleurs, possède 14 de votre œuvre, de vos œuvres, et ceci depuis le début. Alors, si on arrive aux acquisitions d'emblée, on a eu l'exposition, les acquisitions. Est-ce que vous savez qui vous collectionne? Est-ce que vous choisissez vos collectionneurs?
La réponse est non, ça c'est sûr. mais je les aime tous, ceci dit. Non, je pense que ce sont des rencontres auxquelles j'assiste pas forcément, entre mon travail et des personnes qui aiment l'art. En tous les cas, quand je les connais vraiment pas tous, loin de là. C'était vraiment parce qu'ils étaient captivés par une image. Et ça, c'est très touchant et c'est très réconfortant aussi pour un créateur. Et moi, je suis toujours un peu gênée aussi parfois de devoir rencontrer les collectionneurs en me disant, mais peut-être que ils vont se dire, mais elle est juste normale, c'est bizarre.
Actuellement, vous exposez à Londres votre dernière série, titre et réflexion. Réflexion, oui, c'est un thème, un mot éminemment photographique au Victoria and Albert Museum, jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Bon, c'est dire que vous êtes entré désormais dans l'histoire de la photographie, et c'est ce que vous allez nous raconter. Alors, vous êtes né à Boulogne-Billancourt en 1964, et j'aimerais savoir, peut-être de l'enfance à vos études d'art que vous allez ensuite prolonger à la fois à Versailles, à Bourges et à la Sorbonne, si vous avez un goût très tôt pour l'observation, si vous êtes une friande lectrice, si vous visitez des musées, si votre contexte familial vous amène à regarder les choses aussi, au contraire, vous vivez une solitude propice à l'observation.
Bah, c'est un peu tout ce que vous venez de dire, en fin de compte. Hein. Quand on est dans un processus de création, on est en perpétuelle quête de sujets, quête de chocs visuels avec des sujets possibles. Et ça, c'est une recherche qui est intégrée un peu dans l'ADN hein, d'un artiste et qui n'a pas de cesse, qui ne vous laisse aucun répit. Donc ça se fait effectivement quand on est étudiant, ça se fait à l'école principalement, à travers l'enseignement.
Mais avant d'être étudiante, vous êtes une jeune fille qui collectionnait des outils, des coquillages, des feuilles, des souvenirs, qui a une ouverture sur le monde de l'art.
Écoutez, non, j'ai une enfance très banale. J'ai vécu, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une cité un peu dortoir, mais en tous les cas, sans grande ouverture sur la culture en tous les cas, ce qui a peut-être aussi généré cette envie, c'est-à-dire que, voilà, pour échapper à un espèce d'enfermement. Si vous voulez, l'art pour moi, c'était un moyen d'échapper à l'ennui, tout simplement, et ça assez rapidement. Avant ça, échapper à l'ennui, c'était effectivement, comme tous les enfants, trouver des jeux, faire fonctionner son imaginaire avec trois cailloux sur la plage ou quelques feutres et une feuille de papier. Mais les choses se sont vraiment précisées au lycée, en fait, où j'ai choisi très rapidement la voie artistique en faisant un bac spécialisé. Je crois que maintenant ça s'appelle ST2I ou quelque chose comme ça, ou ST2A, enfin bon. Et puis après le lycée, sans trop me poser de questions, j'ai intégré l'école des beaux-arts. Mais si vous voulez, bon, la maturation, un enfant c'est un enfant. La maturation, elle se fait avec le temps, les expériences, les rencontres.
Mais un enfant, c'est des rêves aussi, c'est des projections parfois. C'est aller vers ce qu'on ne connaît pas, c'est aller vers un ailleurs, c'est aller vers c'est prendre un risque quand on n'est pas issu d'une famille d'artistes que de se dire j'irai là où je ne connais personne qui pratique l'art. C'est aussi un voyage vers l'inconnu.
Oui, ben, je pense qu'il faut être un peu inconscient pour être artiste. Donc je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est risqué ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu veux. Ça m'est jamais venu à effleurer même l'esprit. Voilà, j'avais des parents qui m'ont laissé faire exactement ce que je voulais, qui avaient une entière confiance en moi. Donc, comment vous dire, mais j'étais pas particulièrement douée pour l'art. Hein. Je crois que ma moins bonne note au bac, ça devait être justement en art plastique. Justement, c'était un challenge aussi d'aller vers les choses plus compliquées. Mais j'étais une enfant un peu comme ça. Déjà très solitaire, déjà un peu comme ça dans l'introversion, ce qui n'a pas véritablement changé.
Fille unique peut-être ?
Non, même pas.
Vous entamez donc des études d'art. Alors aux Beaux-Arts de Versailles, c'est une préparation aux écoles d'art ?
Non, les Beaux-Arts c'était vraiment déjà les Beaux-Arts, sauf que cette école était une école municipale. Et donc, on ne faisait pas le cycle long. Donc, si on voulait poursuivre après les 2 ans d'année probatoire, ce qu'on appelait à l'époque, il fallait aller dans une autre école. Et moi, j'avais à Versailles des professeurs qui étaient d'excellents professeurs et qui étaient également enseignants à l'école de Bourges. Et donc, je les ai suivis, tout simplement, en allant pour le cycle long dans cette sympathique ville de Bourges. Ce que je n'ai pas regretté, parce que d'une part, ces enseignants étaient vraiment des pierres angulaires de l'édifice que j'ai voulu ensuite construire pas à pas. Je leur dois beaucoup, et je dois beaucoup aussi à l'école de Bourges, qui était à l'époque une école très en avance sur son temps, d'un point de vue de la pédagogie, d'un point de vue des équipements aussi. Il y avait un labo photo qui était bien équipé. Je savais que je voulais faire de la photo, c'est une des raisons pour laquelle j'étais là-bas. Et puis, je vous dis, ces enseignants qui étaient vraiment d'excellents pédagogues.
Qu'est-ce qu'un bon pédagogue ?
C'est quelqu'un qui arrive à transmettre sa passion pour l'art, et en émettant des arguments intelligibles expliquant cette passion. Ce qui n'est pas évident. Hein.
Vous dites très tôt, vous dirigez vers le médium photographique, qui n'est pas forcément le médium le plus reconnu dans une école d'art, le plus à la mode. C'était un choix que vous justifiez comment ?
Ben, là encore, je ne me suis pas vraiment posé la question. En fait, ça a démarré avec une espèce de rencontre un peu choquante, de plusieurs points de vue. Durant le premier cycle, hein, les deux premières années, on n'a pas d'enseignement de photo. Et il s'est trouvé qu'on a eu un workshop d'une semaine avec un photographe qui est arrivé donc à l'école de Versailles, nous a dit voilà, prenez un appareil photo, allez vous promener, faites des photos et revenez, et on se revoit à la fin de semaine. Bon. Donc j'ai été faire des photos dans Versailles. Je reviens avec mes photos et l'intervenant m'appelle du doigt, d'un signe de doigt, en me disant « Écoute, toi, viens voir, j'ai un truc à te dire. Les photos que t'as fait là, c'est pas des photos de femmes. » Donc comme il était très misogyne, j'ai pris ça pour un compliment. Et j'étais très choquée, mais dans un double sens, en me disant « Mais qu'est-ce qu'il veut me dire, ce bonhomme, en me disant ça ?» Et finalement, je me suis dit, ok, tu vas voir, je vais continuer. Ce que j'ai fait, voilà.
Aujourd'hui encore.
Oui. Est-ce qu'il dirait la même chose ? Sans doute pas.
Oui. Alors, quelles étaient vos photos ?
Alors, c'était des photos de l'asphalte en lumière solaire rasante en fin de journée, où je photographiais des empreintes laissées par divers matériaux qui avaient imprimé l'asphalte Donc ça ressemblait principalement à des sols un peu lunaires ou des choses comme ça en noir et blanc, où il y avait un souci d'abstraction, où des formes géométriques apparaissaient, enfin des choses tout à fait banales hein, après tout, mais je n'étais déjà pas dans la narration ou dans la représentation documentaire liée à la photographie.
Donc ce sera la photo et pas celle qu'on attend de vous.
Oui, enfin ça sera des photos de femmes, voilà justement.
Ça sera des photos de femmes.
Oui.
Qu'on pourra qualifier enfin, c'est une femme qui a pris cette photo et pourtant elle est différente de celle qu'on attendait.
Voilà, peut-être.
Bourges, des années plaisantes, instructives, des camaraderies, d'autres professeurs. Est-ce que ça compte ces premières rencontres qu'on fait avec des jeunes artistes comme vous, où chacun est quand même dans la recherche, dans le doute, et où les expériences se multiplient?
Oui, bien sûr. Les compagnons des premières heures sont des gens qui restent très importants, qui sont toujours dans mon esprit. On est tous dans le même bateau, on sait tous pas très bien où ça va nous mener. Certains abandonnent, certains continuent. Oui, c'est un peu à Bourges notamment, comme c'est une ville très très calme où il y avait pas grand chose. Enfin, il y avait quand même le festival, le Printemps de Bourges, qui était à l'époque très actif. Il y avait le musée Estève qui était juste à côté de l'école. Mais enfin bon, voilà, sorti de là, on était un peu dans la campagne. Et donc on était un peu comme ça, en cercle fermé, comme sur un campus américain. Et donc ces amitiés étaient effectivement très très importantes. Mais pas, je dirais pas d'un point de vue de la création elle-même, parce qu'on avait des travaux très différents les uns des autres. Non, ça se limitait à la vie estudiantine classique, je pense.
Vous avez gardé des amitiés proches?
Oui. Notamment avec une jeune femme qui, en sortant de l'école, on était restés très proches, et elle a eu un grave accident de voiture, elle a failli perdre la vie, et j'allais la voir à la Salpêtrière tous les jours, et donc je pense que les voitures accidentées ont été une sorte de catharsis de ce moment de vie.
Votre série, les voitures accidentées.
Voilà. Oui. Exactement.
Donc il y a des liens humains qui se tissent, qui existent entre vos photos, qui pourraient sembler être sans histoire, mais avec, malgré tout, votre histoire.
Oui, je pense que de toute façon, un artiste, tout ce qu'il fait est lié à un caractère autobiographique, voire tous les portraits sont des autoportraits, si on veut exagérer un peu le trait. Et je n'échappe pas à la règle, les photographes n'échappent pas à la règle, hein, même ceux qui se revendiquent ou qui peuvent trouver une filiation avec une tradition documentaire n'échappent pas à ce phénomène. Sinon, il n'y aurait pas d'écriture, il n'y aurait pas de vision. Et je pense que la chronologie de mon travail est aussi la chronologie d'une vie, effectivement.
Alors, vous poursuivez avec des études en histoire de l'art à la Sorbonne. Encore des études, on peut se dire.
Oui. Ben, c'était un peu reculé pour mieux sauter. Hein.
Ça fait peur de se lancer dans la vie artistique.
Bien sûr, ça fait peur de sortir du cocon de l'école, sans savoir exactement à qui s'adresser. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai fait ce DEA de philosophie parce que je voulais essayer de comprendre un peu mieux les influences sur mon travail et l'importance dans mon travail de l'art minimal américain. Donc mon DEA a porté sur ce courant très important aux États-Unis, ce qui m'a donné voilà une sorte de temps de réflexion pour décider comment j'allais m'y prendre après quoi.
Des outils théoriques, des outils qui rassurent.
Oui, c'était aussi continuer à connaître, à apprendre. Ce qui est toujours, il faut faire ses armes, et la connaissance, l'accès à la culture, c'est quelque chose d'essentiel pour ça. Donc fort de cette année d'expérience à la Sorbonne, je me suis lancée, j'ai continué à faire des prises de vue, parce que j'avais arrêté en quelque sorte pendant un an. voilà, à développer mes films dans la salle de bain, à m'installer un petit agrandisseur sur l'évier, des choses comme ça, tout en faisant des petits boulots, notamment, je me souviens que je travaillais pour la revue Salut les copains, et je faisais de la mise en page pour Salut les copains, c'était mon job principal pendant un certain temps. Et puis ensuite, j'ai travaillé à la RATP, j'étais photographe à la RATP, donc j'ai photographié beaucoup de bus, beaucoup de métro, de RER. C'était très intéressant, tout ça. J'ai aussi fait des publicités pour la RATP, notamment pour la ligne 14.
On peut les voir encore.
Je ne sais même pas si ces publicités sont sorties un jour ou l'autre. Non, mais c'était vraiment une époque... très enrichissante parce que je travaillais avec des photographes qui avaient des formations différentes, de générations différentes. Je me souviens notamment d'un photographe qui avait mon âge à la RATP, qui faisait des choses très élaborées à la chambre, notamment les publicités. Et un jour, avec lui, je travaille sur une nature morte. Justement, pour cette ligne 14, c'est très compliqué. Il y avait des papillons de collection, il y avait des petites lumières, tout ça était sur une plaque de verre. On travaillait à la chambre 4-5, en plongée sur cette nature morte qui était au sol. Et j'ai simplement fait tomber la chambre sur la nature morte. Et j'ai tout détruit, y compris les papillons. Et c'est un souvenir que j'oublierai jamais, parce qu'au lieu de me... au lieu de me renvoyer, il a éclaté de rire. Donc finalement, on a fait autre chose. Mais voilà, ce sont des moments qu'on n'oublie pas et qui sont très formateurs aussi.
Alors là, vous commencez vos premières séries. La première étonnante, qui n'est pas dans le... finalement dans vos œuvres officielles, parce que vous me dites c'est un travail d'étude, mais je peux pas m'empêcher d'avoir envie d'en parler, parce que c'est vous photographiez, on peut dire peut-être d'une certaine manière, les outils de la photographie. Vous photographiez la lumière, vous photographiez les néons. Ah, moi j'ai envie de, je sais pas, je pense à néon quand j'entends néon, mais ça c'est mon esprit qui extrapole. Mais donc vous photographiez des néons. Il y a dans le néon cette notion qui sera la vôtre tout au long de votre œuvre, aussi sur l'artificialité. Mais dites-moi, vous, d'où vient cette première série, plus ou moins connue
Non, elle n'aurait pas connue, parce qu'en fait, c'était le travail de mon diplôme aux Beaux-Arts, donc je ne l'ai jamais montré par la suite. Et donc là, pour vous expliquer d'où ça sort, c'était effectivement des photos de néon que j'avais inversées au développement. Donc le film était devenu un positif au lieu d'être un négatif. Et donc au tirage, on retrouvait un négatif au lieu d'un positif. Donc on avait des espèces de formes granuleuses qui étaient le grain de la photographie, qui ressemblaient à des radiographies de qu'on pouvait imaginer, des radiographies de pas grand-chose d'ailleurs, de lumière pure. Et je pense que ces images étaient le résultat de cette espèce de diktat qui était encore à l'œuvre à l'époque, issu notamment de l'art minimal américain, où la représentation, le geste de l'artiste, toutes ces notions un peu trop, qui sentaient un peu trop l'humain, étaient totalement interdites. La narration, la figuration, la gestuelle, le rapport au corps de l'artiste, tout ça était des notions totalement prohibées. Et moi, j'ai mes enseignants, j'ai subi aussi cette influence.
Oui, on est l'artiste de son époque.
Oui.
Quand
oui.
On est jeune, en tout cas.
Quand on est jeune, et puis que, voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, il était absolument impossible d'envisager une photographie qui aurait montré même un objet, ou une personne, ou une situation, ou un paysage. Donc, si vous voulez, il y avait une sorte de recherche de la réduction des formes à son minimum, comme chez des artistes comme Robert Morris, Sol LeWitt, Richard Serra, et qui nous ramenait paradoxalement à une expérience, enfin pas paradoxalement, qui nous ramenait en tous les cas à une expérience très, très sensitive, très sensuelle, liée au corps, voilà. Donc finalement, relativement essentielle.
le néon, puis les objets en cristal, l'argenterie, les miroirs vénitiens, toujours des leurres visuelles, mais aussi des leurres dans un certain monde. Parce que quand on entend miroir, argenterie, c'est aussi noble, ce sont des objets nobles, c'est un certain monde. On est dans une forme de féerie, et peut-être au début d'un conte.
Oui, peut-être.
peut-être.
Enfin, il n'y avait pas de scénario en l'occurrence, mais il y avait surtout, si vous voulez, cette espèce de recherche de repeupler un univers. Donc non pas avec des personnages, avec des personnes, parce que là encore, au début de mon travail, il était difficile pour moi, voire impossible, de faire un portrait, quel qu'il soit.
Pour cette histoire de l'art, ou pour vous, être face à quelqu'un?
Les deux, je pense, les deux, tout ça étant intimement imbriqué l'un dans l'autre, faisant partie d'un même univers, d'une même posture. Et donc les objets, pour moi, ont été les premiers personnages me permettant de repeupler un univers qui effectivement avait été à un point de non-retour dans les années, à la fin des années 90, en sortant de l'école. Et donc les objets devaient, par un souci, si vous voulez, mon travail est toujours très très proche du médium lui-même. Là encore, c'est issu de ma formation, qui est une formation moderniste, on pourrait dire, hein, issue des courants modernistes. Les courants modernistes étant définis par leur attachement au médium lui-même. Donc j'étais, et je suis toujours, très proche de mon médium. Donc le médium photographique, dans les années 90, pour moi, il était en noir et blanc, il était donc très lié à la lumière. Et ces objets que j'avais l'intention d'utiliser pour façonner mon univers devaient donc briller, principalement. D'où les objets en cristal, d'où les argenteries, qui étaient véritablement des capteurs de lumière pour moi, tout autant que des métaphores d'un corps traversé par la lumière pour les cristaux, pour les objets en cristal. Et de fait, je les photographie à la manière d'un portrait, c'est-à-dire qu'il y a un seul objet dans la photographie qui est montré frontalement comme un visage, comme un corps, et qui est le protagoniste de la photographie. Mais il existe uniquement par la lumière.
C'est la lumière qui fait la chose.
C'est la lumière qui fait l'objet, qui fait la photographie, aidée en cela par le noir et blanc, qui donne la part belle à la lumière, en fait, hein, contrairement à la texture et à la lumière renvoyée par les choses. Ce qui n'est pas le cas de la couleur.
Mais la lumière, c'est vous.
La lumière, c'est moi. Je sais pas. La lumière, c'est la photographie, principalement, oui. C'est l'argent, c'est... Non, moi je suis intégrée dans la photographie, je suis le médiateur entre le... Enfin, je suis celui qui regarde, je suis celui qui observe, celui qui regarde. Parce que la photo, quand vous regardez une photographie, en fait, vous êtes dans la posture du photographe, vous adoptez son point de vue, vous adoptez sa vision, et vous êtes comme ça dans... Le photographe vous impose son point de vue. C'est ça qui est intéressant dans la photographie, en fait. Vous vous mettez à la place du photographe.
Ou c'est vous qui nous faites voir comme vous.
Exactement. Donc pour moi, la photographie, c'est un art du regard, principalement. C'est un art de regarder les choses, et donc de... Et ça n'est pas objectif, c'est pas un art de l'objectivité, ça n'existe pas, c'est un art qui transforme les choses, qui fait des choix et qui les transmet au spectateur.
Viennent les carcasses animales. Alors merci de nous faire voir des carcasses animales. On arrive progressivement vers l'humain, mais de l'objet à l'humain, il va y avoir cette bête dépecée.
Oui. Ben, là encore, comme vous le dites, ce passage des objets à l'humain, en fait, il s'est fait par des chemins détournés, des métaphores. Et effectivement, les carcasses de viande étant la métaphore la plus claire avec le corps humain, puisque pour moi, c'était un peu une manière de photographier des écorchés ou des études d'écorchés. Et ce qui m'intéressait dans ces espèces d'amas de différentes, de différents morceaux de corps d'animal, c'était qu'il me ramenait à mes premiers entrelacs avec les objets en cristal, parce que quand vous regardez ces photographies, il y a une espèce de confusion entre l'objet et l'arrière-plan, l'arrière-fond, qui est du même ordre. Et dans, je me situe vraiment sur une limite entre montrer un objet et l'abstraction pure, puisque l'arrière-plan et l'objet sont dans une parfaite équivalence visuelle. Et il y avait ce même phénomène avec les carcasses, puisque chaque morceau de viande étant à l'équivalent de celui qui le juxtaposait à côté, etc. Donc on avait un art de l'entrelacs dans cette espèce de mise en forme que je ne faisais pas, hein, qui était celle faite par les bouchers à Rungis, qui m'intéressait beaucoup et qui me donnait comme ça un fil conducteur avec ce que j'avais fait avant pour aller un peu ailleurs, vers l'humain, effectivement.
Oui, l'humain qu'on ne voit toujours pas, parce qu'il y a dans cette association de séries précisément la présence peut-être de la douleur, de la mort, de l'absence. Si on évoque la série des robes que vous avez photographiées, mais qui ressemblent à des linceuls, puisque ce sont des robes, des pauvres robes mortes, étendues. Des épaves de voiture, on en a parlé. C'est des images qui sont particulièrement tragiques.
Oui, elles portent une histoire. Enfin, c'est les robes ont une histoire, les voitures accidentées ont l'histoire qui est celle de l'accident. Les carcasses, on imagine ce qu'avait pu être la vie avant la mort, etc. Mais en même temps, dans ces images, ce qui m'importait, c'était d'insuffler la vie à ces choses inertes. Dans le cas des voitures, pour moi, c'est flagrant, c'est-à-dire que l'impact de l'accident, c'est une énergie folle. Et ce que montre la photo, c'est cette énergie-là. C'est l'énergie du moment de l'accident. Donc pour moi, c'était mortifère, mais pas morbide, si vous voulez. C'était une sorte d'énergie de transformation à l'œuvre qui, malgré cette dimension, effectivement, donnait aussi l'inverse, enfin transmettait aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'inerte versus le vivant, la mort versus le vivant. Dans les carcasses de viande, c'est la même chose, c'est-à-dire que paradoxalement, ces morceaux inertes sont comme animés par une illusion de mouvement, qui alors là est vraiment une illusion baroque, hein, effectivement, mais on a cette sensation du mouvement qui, effectivement, là encore, contredit la mort, l'idée de la mort. Et dans les robes, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces robes, je les ai photographiées dans les réserves du musée de la dentelle de Calais, c'était une commande, et elles sont dans les réserves, montrées dans des boîtes.
Qui ressemblent à des corbillards.
Qui ressemblent à des cercueils. Mais néanmoins, la robe, elle est remplie de papier de soie, de manière à ce que la fibre de la dentelle ne s'écrase pas et ne s'abîme pas. Et donc, ces robes, elles sont aussi dans un état d'être rempli par un corps qui n'est pas là, mais qui... Il y a le contenant et le contenu, si vous voulez, dans ces images.
Oui.
Et donc, là encore, ce sont à la fois des robes vides et des robes pleines.
C'est un fantasme, un peu, la présence invisible.
Alors, oui, peut-être. En tous les cas, c'est une réalité, aussi.
Elles ont été portées.
Elles ont été portées et on nous les montre de telle manière que on pense à celles qui les ont portées.
À partir de ce moment-là, quelles sont les réactions sur votre travail? Qu'est-ce que les observateurs vous disent et qu'est-ce qui va compter pour vous pour continuer?
Effectivement, le regard des autres, il est très important. Puisqu'on a difficilement soi-même un regard discursif sur sa propre production. Donc, à l'époque, effectivement, chaque commentaire éclairé, chaque lecture de mon travail, non pas m'aidait à envisager ce que j'allais faire par la suite, parce que ça reste un mystère et ça reste absolument incontrôlable, mais m'aidait à continuer, à me dire que je faisais pas ça toute seule, voilà, des notions très simples. Hein. l'enchaînement des séries les unes après les autres, il reste pour moi une sorte de chose très mystérieuse. Je crois qu'il y a une espèce de transformation des choses au cours des séries. Il y a une évolution du style, pour le moins, et cette évolution du style, là encore, elle est liée à l'évolution de l'outil. Mais elle a des répercussions sur les sujets eux-mêmes, effectivement. Donc au fil des années, ces sujets se sont légèrement déplacés. Le style a considérablement évolué, voire a donné l'impression de se contredire, effectivement. Mais ça, c'est justement ce qui fait, je pense, le parcours d'un artiste. C'est ça son intérêt. Pour moi, par exemple, quand je suis dans une rétrospective d'un grand artiste, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de son style. C'est ça qui fait la richesse d'un travail.
Oui, vos styles, là, est donc en pleine évolution. Nous avons évoqué Valérie Belin dans cette masterclass sur France Culture. Jusqu'à présent, toute la série de vos photographies en noir et blanc, voilà que deux choses vont changer fondamentalement. La figure humaine arrive. On va la voir aussi dans toute sa complexité, sa perplexité, ces modèles-là peut-être aussi vont vous regarder à l'inverse des objets. Ça change peut-être aussi quand on travaille avec des modèles qui vous regardent plutôt que des objets. Et c'est toute une série absolument passionnante, les unes après les autres, que je citerai avant qu'on s'y attarde plus longuement. Figure humaine, donc 99, la série Bodybuilder. Puis viendra la série Les mariées marocaines, puis Les transsexuels, Les femmes noires également en 2001, Les modèles, Les mannequins et cette série consacrée aux sosies de Michael Jackson. Ils ont toutes ces séries un point commun, c'est que vous photographiez des gens qui ont envie de se métamorphoser.
Oui, je pense que effectivement. De même que les objets étaient des objets, comme vous l'avez dit, qui étaient des objets d'apparat, de représentation, voilà, faits pour être vus, les personnes que je vais photographier sont des personnes qui sont dans la représentation de soi, dans la recherche d'une image qui est une image extraordinaire. Donc les bodybuilders, effectivement, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont dans l'exhibition de leur corps, comme un bel objet en cristal, ou voilà, comme un très beau miroir de Venise. Et ils sont aussi dans une recherche de sublimation par la même. Chacun a son idée de la beauté. Pour eux, l'archétype de la beauté, c'est la beauté grecque, tout simplement. Mais pour moi, ce sont aussi des êtres humains qui sont entre l'objet et l'humain, de par le façonnage, l'hypertrophie de leurs muscles. Et ce sont aussi des gens, des personnes qui sont transparentes en quelque sorte, puisque le travail qu'ils font sur eux, ils sont secs, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'eau ni de graisse entre la peau et les muscles. Et ce qui fait finalement, on voit à travers, on voit l'intérieur de leur corps. Et pour moi, ça, c'était aussi une des raisons inconscientes pour lesquelles j'ai été attirée vers cette typologie, en fait. Et parce qu'ils font aussi cette espèce de travail de hors norme de développement de leur corps, ce sont des personnes qui sont dans une situation d'aliénation très forte. C'est-à-dire, ils sont à côté d'eux-mêmes, ils sont vraiment dans un processus assez destructeur. Et cela, ça rejoint aussi ce que je ferai, enfin ce qu'on pourrait éventuellement parler après par la suite. Voilà, ce pouvoir de destruction de l'image, en fait.
On a l'impression à voir vos images qui vont exploser.
Oui, ils vont quasi imploser, effectivement.
Imploser.
Et l'image traduit ça par un phénomène simple. Parce qu'en fait, je leur ai demandé de poser dans la pose la plus difficile à faire, ce qui est celle où ils doivent contracter l'ensemble de leurs muscles en même temps. Et en faisant ça, ils étaient amenés à grimacer. ce qui rendait l'image pour moi beaucoup trop expressionniste, enfin beaucoup trop triviale en tous les cas. Et je leur ai demandé donc de garder leur visage passible, enfin inerte, ce qui était encore plus difficile pour eux, mais ce qui fait aussi l'image, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, du coup, de séparation entre la contraction de ce corps et sa dimension anormale, et ce visage qui reste un visage un visage inexpressif, comme s'il n'appartenait pas à ce corps. Et pour moi, ce phénomène visuel, il transmet ce phénomène d'aliénation dans lequel ils sont. Voilà, cette tête n'appartient plus à ce corps.
Et autre tête qui n'appartient pas au corps, c'est votre magnifique série sur les sosies de Michael Jackson. Michael Jackson étant lui-même, vous le dites, le sosie de lui-même, c'est le sosie au carré que vous observez.
Oui, en effet. Quand j'ai voulu faire ce travail, j'ai commencé par photographier des sosies de toutes sortes de stars. Il y avait Madonna, Britney Spears à l'époque. Mais on voyait, ça marchait pas, on voyait des gens, puis on se demandait un peu à quoi ils voulaient ressembler.
Ça, photographier les gens, c'est pas ça que vous souhaitez faire?
Non, d'une certaine manière, c'est pas ça que je souhaite faire. Et donc, fort de cette déception, j'ai pensé à Michael Jackson, pour les raisons que vous évoquez. Et là, tout d'un coup, effectivement, on reconnaissait le modèle, puisqu'il suffisait que ces personnes, qui ne leur ressemblaient pas au départ, miment les transformations qu'il avait faites sur lui-même, de façon à lui ressembler. Donc c'est aussi un travail sur la ressemblance en photographie, et principalement, je pense, sur cette quête qui a été celle de Michael Jackson, cette quête de beauté, puisque pour lui, comme pour d'autres, cette transformation, c'était vraiment une recherche de beauté. Enfin, c'était une recherche de... Mais la beauté dans un sens fort, c'est-à-dire que... Par exemple, les transsexuels, c'était la même recherche que Mike. Ils ont exactement la même attitude. C'est-à-dire comment devenir beau, c'est-à-dire comment devenir... regardable, acceptable pour moi-même. Pour les transsexuels, c'est de devenir une femme, voilà, puisque il a été dit que les femmes étaient plus beaux que les hommes, entre guillemets, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas une question de genre ou d'orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir. C'est comment devenir beau, donc belle, pour les transsexuels. Et pour Michael Jackson, c'est exactement la même chose. Et j'ai constaté, parce que ce qui est intéressant aussi en faisant des photographies, même comme les miennes, c'est qu'on rencontre des gens qui vous parlent, qui vous racontent leur vie en quelque sorte, et c'est aussi un outil de connaissance et d'ouverture sur le monde avec ce phénomène-là. Et donc en écoutant les transsexuels, j'ai compris ça. Je n'ai pas écouté Michael Jackson parce qu'il m'aurait pas parlé, mais j'ai écouté les sosies. Et c'était effectivement la même recherche d'acceptation de soi à travers une surreprésentation.
Ce qui explique aussi que vous êtes intéressé aux modèles, aux mannequins, qui sont aussi des objets qui doivent être des objets ou des personnes qui doivent être beaux. Qui sont là pour être regardés.
Oui, de même que comme les premiers objets que j'ai photographiés, les gens que je suis amenée à photographier sont là, sont dédiés au regard. Les mannequins d'agence sont dédiés à incarner les fantasmes d'une époque, à travers l'idée du stéréotype notamment. Michael Jackson, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mimé le stéréotype de la beauté blanche. Il a voulu adhérer au stéréotype de la beauté blanche. Partout les artifices qu'il a mis en place. Un mannequin d'agence, c'est un mannequin qui va répondre aux fantasmes d'une époque. Alors en l'occurrence aujourd'hui, les mannequins sont des jeunes personnes éthérées, bien plus éthérées que dans les années 90 d'ailleurs, où on avait ces supermodèles qui étaient des femmes affirmées. Aujourd'hui, il y a une espèce de nivellement des sexes et des formes au profit d'une espèce d'anonymat absolu du mannequin qui est interchangeable, qui disparaît, qu'on ne retrouve pas de quelques mois après l'avoir photographié. Il a totalement disparu de la circulation. Donc ce sont ces phénomènes-là qui m'intéressent.
Et vous les photographiez de telle manière qu'ils deviennent des êtres artificiels, quasiment synthétiques, c'est ce que vos photos montrent, interchangeables. Oui. Peut-être même juste pure fiction.
Oui, c'est presque des modélisations 3D qui n'ont plus d'existence réelle, effectivement, si on pousse un peu les choses à leurs limites. Et ça, c'est renforcé, si vous voulez, par les évolutions de la photographie, qui ont tendance à se dématérialiser aussi, et qui permettent aux photographes que je suis, d'aller encore plus loin dans cet aspect désincarné des personnages, des modèles.
Vous évoquez souvent le thème de la chrysalide. Alors, les chrysalides, entre le moment de passer de la larve au papillon, elles ont une livrée. Et cette livrée est un camouflage qui leur permet d'éviter les prédateurs, la prédation. Est-ce que toutes ces personnes que vous avez photographiées et qui sont entre deux états, vous pensez aussi que vous êtes intéressé par cette notion de ce qui nous camoufle pour ne pas être mangé.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ça, effectivement. Les parures, les représentations de soi-même sont autant de défense ou de masques ou d'armures qui, comme ça, opposent une résistance au contact direct avec l'extérieur ou une extériorité. Je pense que c'est un phénomène, effectivement, qu'on peut évoquer dans mon travail.
Et les photos, c'est peut-être cette peau supplémentaire que vous posez pour les protéger un peu ?
Ben, la photographie, en tous les cas, celle que je pratique, elle émet ou elle pose une distanciation supplémentaire, parce que c'est une photographie qui décontextualise les sujets. C'est une vision souvent frontale. On a parlé aussi de vision comme ça, très précise, chirurgicale. Donc tout ça instaure une espèce de froideur, on pourrait dire, qui met à distance le sujet. Donc effectivement, il y a une distance supplémentaire entre le modèle et celui qui va le regarder, qui est mise en place par la photographie elle-même.
Alors, des objets, des êtres en transformation, et peut-être dernière étape actuelle de votre travail, Valérie Belin, dans les dernières séries, voilà que vous exploitez dans tous les sens l'outil technologique, et là, vos photos deviennent totalement irréelles, surnaturelles. On s'est méfié des apparences, on a vu les transformations, et bien voilà la révolution. Le papillon est né, en quelque sorte. Vos photos confondent le premier plan et l'arrière-plan, dans le premier plan souvent des images de femmes, et une multitude de couleurs, d'emprunts, comme un papier peint dans lequel on est dedans. Là, c'est un monde artificiel. C'est une image pure, purement inventée. C'est une image picturale, vous dites. Ça, c'est une transformation stylistique radicale. Si parfois certains de vos portraits avaient pu être comparés à ceux de Richard Avedon, par exemple, avec une présence forte et un arrière-plan blanc, là, on est totalement dans le monde de la féerie, me semble-t-il.
Alors, ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui m'apparaît, c'est que dès le début de mon travail, il y avait cette dimension picturale ou son équivalent, c'est-à-dire une recherche d'écart par rapport au réalisme de la photographie, mais de grand écart, hein, c'est-à-dire que je repense au miroir vénitien, qui étaient des photographies faites dans les showrooms sur l'île de Murano. Il n'y a qu'une transformation en post-production de ces images-là. Tout se fait au moment de la prise de vue, mais il y a déjà un effet de montage ou un effet de très artificiel. Et c'est vrai aussi des bodybuilders, parce que vous évoquez Avedon, mais mes bodybuilders, ils sont... comme je vous le disais, ils sont absolument pas expressionnistes. Les photos d'Avedon, elles ont une charge comme ça d'expressivité très forte. Elles sont les personnages jouent un rôle. Ils sont souvent glamour, on pourrait presque dire ça.
Oui, là pas du tout. C'est des robots.
Là, voilà. Donc tout est déjà très construit ou déconstruit. Non naturaliste, et donc ce phénomène va peut-être s'amplifier avec la révolution numérique, qui va me donner tout d'un coup une précision dans les outils qui va me permettre effectivement d'aller au-delà, par exemple d'envisager la couleur et non plus seulement le noir et blanc, puisque tout d'un coup la maîtrise de la chromie devient d'une précision absolue, alors que ce n'était pas le cas avec un négatif couleur et un agrandisseur. Là, tout d'un coup, avec un négatif couleur, on peut le scanner et on peut faire des versions chromatiques à l'infini. Donc, tous ces décalages, maintenant, à partir du numérique, ne s'opèrent pas forcément uniquement au moment de la prise de vue, mais aussi après la prise de vue. C'est pour moi la grande différence entre ces deux périodes de mon travail. Du même coup, effectivement, je m'éloigne d'une dimension indicielle de la photographie qui est liée au noir et blanc, à l'empreinte, au rapport à la sculpture. Et je vais vers une chose qui est beaucoup plus picturale, beaucoup plus plate, colorée, où la texture va disparaître peu à peu au profit de la plaque colorée.
Vous utilisez des surimpressions, c'était couche sur couche, de couche sur couche, oui. comme une peintre dans un tableau, et vous y retournez. Et d'ailleurs, ça prend beaucoup plus de temps qu'à réaliser.
Oui, c'est-à-dire que quand on travaille dans Photoshop, j'ai effectivement, par exemple, un portrait, et je vais venir... surimposer à ce portrait une image d'une autre nature, par exemple une couverture de comics américain. Et à partir de là, cette rencontre doit se faire entre le comics et le portrait. Et à partir de là, il va y avoir tout un travail de, si vous voulez, de glacis, hein, pour emprunter des termes qui sont les termes de la peinture, de manière à lier la figure et l'arrière-plan. Donc ce que va finalement beaucoup changer cette intervention en post-production, c'est la notion d'espace. Je pense que à partir de ces surimpressions, il y a une notion d'espace qui va venir dans mon travail qui n'était pas là auparavant, puisque un fond blanc, c'était voilà, il n'y avait pas de notion d'espace. Alors que avec ces surimpressions, tout d'un coup, l'espace se creuse, l'évocation d'un espace. Qui va rester un espace mental d'ailleurs, hein, qui n'est pas un espace lié à la perspective, ça va créer en tous les cas un espace plus psychologique peut-être qu'auparavant.
On a l'impression que vous inventez vos créatures idéales, complexes, parce qu'il y a des références critiques au monde. Quand vous mettez une jeune femme des années 50, donc ça évoque évidemment la domination, la femme objet, mais on sent que ça y est, vous allez créer une panoplie de nouvelles femmes.
Ben oui, je pense que j'ai pas changé, c'est-à-dire que je m'attache toujours à montrer des stéréotypes, là qui se cristallisent plus effectivement sur des portraits de femmes. Depuis quelques années, et le stéréotype serait celui de la photographie de mode, soyons clairs, n'ayons pas peur des mots. C'est comme si vous voulez, je m'appropriais des images qui sont celles qui pourraient être issues de magazines, et que mon travail aujourd'hui est plus un travail d'appropriation et de métamorphose. Qu'un travail de photographie pure qui serait lié, voilà, comme ça, à une typologie très clairement énoncée, les bodybuilders, les transsexuels, les sosies de Michael Jackson. Là, le sujet est beaucoup plus malléable, flou en quelque sorte. Il s'agit juste de jeunes filles, mais c'est la dimension critique, elle vient de l'appropriation que j'en fais, de cette appropriation que je vais mettre en place par la superposition, par le maquillage, par le stylisme, par la lumière, par toutes choses qui font que ce travail est un travail de couche, en fait, effectivement.
Et est-ce que vous sentez que, au fil de toutes ces séries, vous êtes rapproché plus près de cette image que vous cherchez, de ce que vous souhaitez dire ?
Non, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas de différence dans le degré de conscience ou de réceptivité pour celui qui regarde entre une photographie de bodybuilder ou de sosie et une photographie, par exemple, plus complexe de par exemple celle des portraits mélangés avec des couvertures de comics. C'est simplement que le style évoque des phénomènes relativement qui se nuancent ou qui se ou plutôt c'est très compliqué à expliquer. Par exemple les All Stars, donc ces jeunes femmes que je photographie dans un style un peu Hitchcockien avec une lumière qui provoque des ombres très fortes ou un peu comme ça dans un style dépressif on pourrait dire, que je superpose avec des couvertures de comics ou qui montrent une action avec une dimension naïve, il y a les bons, les méchants, c'est la guerre, on se bataille, etc. Il y a un contraste entre ces deux univers. Et c'est ce contraste, cette rencontre, comme ça, fortuite, inattendue, de deux psychologies inversées, enfin, opposées, qui fait que les choses se métamorphosent, se transforment. Et donc la naïveté du comics, sa narration, va totalement disparaître. Et ne va rester qu'une sorte de tourbillon qui sera pour moi comme une espèce d'équivalent du tourbillon de la pensée de ces jeunes filles, ou de leur tourment, ou de ce à quoi elles pensent. Un peu à la manière d'une héroïne hitchcockienne, c'est-à-dire le feu sous la glace, vous voyez. C'est un peu ça. Donc ces rencontres, ces juxtapositions, elles provoquent du sens. Elle provoque, mais elle provoque ça de manière non narrative, en fait, de manière visuelle.
C'est donc un autoportrait qui vous correspond parfaitement.
Alors ça, je vous laisse juger.
Le feu sous la glace. Voilà. Merci infiniment, Valérie Belin. Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Valérie Belin avec Aude Lavigne. Prise de son Alexandre James, Romain Lucquins. Coordination Arnaud Laporte. Attaché de production Pascaline Bonnet. Réalisation Clotilde Pivin.